I'd like to have a democracy.
Troisième séquence sur les présidentielles 2012. On est toujours dans les studios de Radio PFM avec Paul Masson. Paul, salut.
Salut.
Je rappelle que tu es formateur d'adultes, militant de l'éducation populaire au sein de Culture et Liberté et d'Attaque. Et puis dans les studios, donc, il y a aussi le collègue Boris pour poser des questions. Alors aujourd'hui, Paul, on parle des différents courants de pensée qui sont représentés lors de ces élections présidentielles 2012 en France.
Effectivement, oui. On va essayer de regarder les différents courants de pensée qui traversent le débat électoral. Mais attention, un courant de pensée, c'est pas un candidat. Derrière tel ou tel candidat, ils sont influencés avec des courants majoritaires, mais avec des courants secondaires. On ne peut pas dire « celui-ci, c'est ça » uniquement. C'est un peu plus compliqué que ça et ça vous demandera de faire le tri. La même chose au niveau des partis politiques. Derrière les candidats, il y a des partis politiques. Et les partis politiques regroupent des forces et des courants qui, des fois, sont assez loin les uns des autres. Et dans un même parti politique, on pourrait dire tel discours de tel candidat serait plutôt dans ce courant-là et tel autre du même parti dans un autre. Alors, les courants de pensée, j'en ai identifié 5 grands. Il y a le courant des néolibéraux. Ce courant-là, c'est le courant majoritaire à l'échelle mondiale. C'est celui qui dit qu'il faut donner plus d'argent aux riches parce que par le fait qu'ils disposent de cette richesse, ils la réinvestiront. Ça permettra à la consommation de repartir, ça donnera du pouvoir d'achat, ça donnera des profits et la logique se développera et tout le monde y gagnera. C'est l'illustration de ce courant-là, c'est le bouclier fiscal quand Sarkozy arrive. On va faire en sorte que les plus riches soient protégés pour qu'ils puissent garder de la richesse. Il y a un autre courant qui est d'accord sur cette logique productiviste qui, par la consommation, par le pouvoir d'achat, va permettre de continuer. Mais qui dit, il ne s'agit pas seulement de le donner aux riches, il faut réussir à limiter les dégâts de ce capitalisme sauvage qui licencie, qui va produire de l'autre côté de la planète au détriment du travail chez nous, et qui dit, il faut essayer de limiter ces dégâts. Et c'est de la fonction du politique de limiter des dégâts. En sachant que par rapport à ce groupe-là, qu'on va appeler les libéraux sociaux, il y a aussi des nuances sur quel rôle on attribue à l'État et qu'est-ce qu'on veut lâcher à la mondialisation de la finance et qu'est-ce qu'on veut reprendre. Et là, vous avez, à l'intérieur des libéraux sociaux, on pourrait dire plus ou moins de rôle de l'État, plus ou moins de rôle du marché. Je pense qu'au niveau de la société française, c'est peut-être le courant le plus important.
Peut-être pour donner une idée quand même, quelques repères, ce courant libéral-social, ça va de, entre guillemets, de la gauche de la droite, hein, on peut mettre dedans Dupont-Aignan, peut-être Villepin, le Modem et le PS. Le PS, tu l'inscrirais dans...
Alors, il traverse le PS. C'est incontestablement une partie du PS est sur ce modèle-là. C'est ce que j'expliquais. Il y a à l'intérieur du PS des gens qui ne sont pas sur ce modèle-là.
Et par exemple, la direction du PS est plutôt dans...
Ce serait plutôt cette tendance-là, majoritairement, quoi. Mais on ne peut pas dire que le PS est uniquement... libéral social, oui. Oui, si, finalement. Bon, je l'ai dit.
Alors, troisième grand courant de pensée.
Alors, troisième grand courant de pensée, c'est l'extrême droite. Alors, l'extrême droite a bien conscience que le peuple ne veut pas du système actuel. Et son fonds de commerce, ça va être de dire, si vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est la faute à. Donc là, on n'est pas sur un programme, on est sur désigner des boucs émissaires. En gros, la vision de l'extrême droite, si vous vous appauvrissez, c'est la faute aux immigrés. C'est la faute aux technocrates, c'est la faute à l'euro. En gros, il y a deux grands ennemis, les immigrés et l'Europe. Vous supprimez les immigrés, vous supprimez l'Europe et tout ira bien. Donc là, on est plus sur une vision qu'on retrouve que régulièrement développée par l'extrême droite, c'est la politique du bouc émissaire, désigner des boucs émissaires, et ça marche d'autant plus que la situation est de plus en plus dure. On ne sait pas, on ne voit pas de porte de sortie, on dit « voilà, c'est la faute à lui ». Ouf, on sait de qui c'est la faute. On va s'en prendre à celui qui a la faute. Ça correspond au niveau psychologique à ce mécanisme qui avait été étudié au niveau physique. Dans une cage, vous mettez un rat et vous mettez l'électricité dans la cage. Les rats sont très très mal, ils perdent ses poils, ils tombent malades. Vous mettez deux rats dans la cage, vous mettez la même quantité d'électricité. Les deux rats se battent l'un contre l'autre. Ils ne jouent pas sur la cause, mais ils ne tombent pas malades.
Le pays marcherait comme sur des roulettes, entre guillemets. Le Front National n'existerait pas.
Tout à fait. L'extrême droite se développe toutes les fois qu'il y a des crises. C'est après la crise de 1929 qu'on voit monter le fascisme, qui apparaît comme une réponse à une situation où les gens sont dans l'embarras. Ça apparaît comme une réponse. C'est une illusion. Pas plus que le rat ne réglera son problème s'il y a de l'électricité dans la cage en se battant contre l'autre rat. N'empêche qu'il vivra mieux. Donc c'est un courant de pensée et qui se développe et qui a de l'importance. Au niveau électoral, il compte.
Alors, quatrième courant de pensée.
Alors après, il y a deux autres courants de pensée qui disent, on pourrait dire, le capitalisme a fait son temps, qui a conscience que cette course en avant est une impasse. Et là, je le différencierais. Ceux qui privilégient le social et ceux qui privilégient plus l'écologie. Ceux qui privilégient plus le social, ce serait ce qu'on pourrait dire la gauche de la gauche, hein, pour reprendre la formule de Bourdieu, qui disent il faut que l'État, c'est-à-dire le politique, reprenne le pouvoir qui a été donné à la finance. Et par rapport à ça, il y a nécessité, puisqu'on est dans un pays où finalement 70% de nos lois ne sont rien d'autre que la mise en application de directives européennes, il y a nécessité qu'on repense l'approche de l'Europe et qu'on arrête cette logique où finalement, depuis les années 80, l'Europe s'est raccrochée aux États-Unis pour organiser la mondialisation. Donc eux seront plus centrés sur le social et remettent plus ou moins, là aussi, on est sur des lignes, hein, on n'est pas sur des positions, ils remettent plus ou moins en cause le productivisme. Certains le remettent un peu plus en cause que d'autres. D'autres, au contraire, disent que ça sera quand même dans le productivisme qu'on continuera de créer de la valeur et qu'on pourra se répartir. Le cinquième courant, lui, pose plus le problème en dire qu'il faut qu'on sorte de cette situation parce que écologiquement, elle va à la catastrophe et on veut un avenir pour nos enfants et pour nos petits-enfants. C'est-à-dire que on est sur un changement de représentation du monde. Et là aussi, on ne peut pas dire c'est le courant par exemple, les Verts Europe Écologie. À l'intérieur des Verts Europe Écologie, c'est une tendance. Mais dans le courant les Verts Europe Écologie, il y a un échantillonnage bien plus large, quoi, hein. Mais c'est quand même, je pense, autour de ces cinq courants de pensée, on a en gros les grandes représentations qui se proposent, qui nous sont proposées à l'occasion des élections.
Paul, tu as défini donc ces courants de pensée plutôt par rapport à des logiques, des questions économiques, mais il y a aussi plein d'autres questions de société qui peuvent rentrer en compte dans le choix des électeurs pour tel ou tel candidat. Par exemple, ça peut être les questions du mariage homosexuel, pour ou contre le nucléaire, ou plein d'autres questions. Comment est-ce que tu vois ça ?
Alors, à l'occasion des élections, effectivement, pour conduire une politique, il faut avoir une vision de la société. Et c'est les courants de pensée qui rentrent en ligne de compte. Mais en même temps, quand on va se présenter aux électeurs, on essaye de dire comment je vais réussir à avoir le plus de voix pour moi. Et parmi la manière d'obtenir des voix, c'est de réussir à répondre à des attentes d'un petit nombre d'électeurs, mais qui, pour eux, quelque chose est important. Le mariage homosexuel, bon, il y a une catégorie de population qui, pour eux, il y a un enjeu. Donc le candidat va essayer de dire, je vais essayer d'aller à la pêche aux voix de ces catégories. Mais c'est quelque chose donc, qui va rentrer en ligne de compte par rapport à la pêche aux voix. En sachant que quand je vais défendre telle catégorie, je prends le risque de contrarier une autre catégorie. Donc c'est quelque chose que chaque candidat mesure en disant, selon l'électorat qui vote plutôt pour moi, est-ce que c'est intéressant de mettre en avant ça ou de ne pas le mettre en avant ? On est sur de la, presque de la stratégie pour gagner des parcelles de public.
Du marketing politique.
Du marketing politique, oui, la formule est bonne.
Bon, c'est un peu pessimiste là, ce que tu nous dis, parce que bon, il y a quand même des gens qui ont aussi des opinions tranchées sur des questions. Même parmi les candidats, ça peut arriver, non ?
Mais peut-être, oui. Mais je ne pense pas que forcément que les candidats ne soient pas forcément soient en désaccord avec ce qu'ils disent. On peut penser que même le plus souvent, mais ils vont le dire plus ou moins fort. I'd like to have a democracy. I'd like to have a
democracy. Alors Paul, tu as passé en revue ces grands courants de pensée représentés lors de ces élections présidentielles en France au premier tour, mais il y a aussi des courants de pensée qui ne sont pas représentés à ces élections et qui même appellent à ne pas voter.
Oui, effectivement, ce qu'on voit apparaître et qui correspond à un mouvement de pensée. De plus en plus de gens qui pensent que ce n'est pas par les élections qu'on transformera la société et qui ne vont plus voter, ou je suis intervenu plusieurs fois sur ces sujets-là, qui disent on ira quand même voter, mais on ira voter pour quelqu'un qu'on ne veut pas, pour avoir moins pire. Donc on a tout ce courant-là, et ce n'est pas forcément des personnes qui ne font rien. C'est au contraire des gens qui, dans leur vie, essayent, par la forme associative, par la forme pression syndicale, de prendre des initiatives de transformation, des mini-initiatives, et qui pensent que des initiatives nombreuses, multiples, coordonnées, sera plus efficace que les élections. Au niveau européen, c'est le mouvement des indignés qui est le plus marqueur de ça, où on a une volonté de transformation sociale, mais on n'attend pas de l'extérieur, on n'attend pas des partis que ça se fasse. C'est la grande tradition libertaire qu'on trouve depuis le 19e siècle et qui s'appuie sur des dates historiques. 1848, les ouvriers obtiennent le suffrage universel par la rue. Les grandes avancées de 36, c'est un mois de grève et on a les avancées de 36, mais 68, les avancées, c'est ce mois de grève qui fait que les partis n'avaient pas prévu ça. Mais ils sont mis devant une situation où les rapports de force ont changé. Donc effectivement, le courant libertaire, on le voit réapparaître, mais pas d'abord à travers l'organisation libertaire qui appellerait à ne pas voter, mais plutôt par ces multitudes d'initiatives, de personnes qui essayent d'agir dans leur coin, qui cherchent à se coordonner plus ou moins et qui comptent plus sur ça que sur les élections pour transformer la société. C'est un courant de pensée aussi.
Alors d'ailleurs, quand tu parlais des indignés, un des mots d'ordre, ou un des autres noms de ce mouvement, c'est le mouvement démocratie réelle, donc une manière d'agir aussi par des assemblées générales populaires, quoi, comme un moyen d'action aussi démocratique.
Voilà, on en revient à la démocratie qui représente le peuple et qui n'est pas la démocratie représentative. Dans la mesure où elle ne représente plus le peuple, il y a nécessité de réinventer une démocratie où la démocratie, c'est le peuple qui est aux commandes. I'd like to have a many people on the street. Democracy. 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 Democracy. I'd like to democracy. Have
Democracy. Democracy. Democracy.